Universellement détestée, les Aïels qui venaient en ville, quittant leur immense camp, à quelques lieues à l'est, aidaient très certainement à empêcher le chaudron de bouillir. Ces guerriers étaient des partisans du dragon réincarné, nul ne l'ignorait, et personne n'avait envie de se retrouver face à des milliers de lances Aïels. Absent, le jeune Altor était bien plus utile que présent. Venu de l'ouest, des récits accusaient les Aïels de piller, d'incendier et de tuer sans discrimination. Ces échos terrifiants incitaient les Kerieniens à marcher sur des œufs avec leurs guerriers du désert. En somme, rien ne semblait en mesure de menacer le calme qui régnait à Kaerien, si on oubliait les bagarres de rue entre des habitants de la ceinture et des citadins qui se défiaient autant de ces gueux aux habits bariolés que des Aïels et les trouvaient bien moins coriaces à combattre. La ville était bourrée jusqu'à son dernier grenier. Partout où on pouvait s'abriter du froid, les gens s'entassaient pour dormir. Pourtant, le ravitaillement restait suffisant, même si on était loin de l'abondance, et le commerce se portait plutôt mieux que d'habitude en hiver. Tout bien pesé, Samitsu aurait dû être contente d'exécuter avec zèle les ordres de Katsuane, sauf que la sœur verte aurait voulu qu'elle fasse encore mieux. Sa signature.
« Tu es avec moi, Samitsu ?»
Avec un soupir, Samitsu se détourna du paisible spectacle. Alors qu'elle se forçait à ne pas lisser le devant de sa jupe rayée de jaune, les clochettes d'argent de Jakanda accrochées dans ses cheveux tintinabulèrent. Mais pour une fois, ce son n'améliora pas son humeur. Quand tout allait pour le mieux, elle ne se sentait pas complètement à l'aise dans ses appartements du palais, et ce malgré le bon feu qui crépitait dans la cheminée de marbre et le lit somptueux, matelas moelleux et oreiller en plumes d'oie qui l'attendait dans la chambre voisine. Les trois pièces étaient décorées dans le style kérienien, à la fois pompeux et austère. Le plafond de plâtre blanc à caissons, les corniches dorées, les lambris sombres et pourtant brillants, le mobilier, d'une lourdeur accablante, était encore plus sombre malgré les ornements pâteaux en or ou en ivoire. Comparé à tout ça, les tapis théariens à fleurs semblaient d'une folle extravagance. Du coup, ils soulignaient l'aspect sinistre du reste, une cage en quelque sorte, et même pas dorée. Le plus gênant, pourtant, c'était la femme aux longues bouclettes qui se tenait au milieu de la pièce, les poings sur les hanches, le menton pointé et les yeux plissés. À la main droite, sa châle portait la bague au serpent, mais elle arborait aussi un collier et un bracelet Aïel, des bijoux tapageurs qui juraient avec sa robe de laine marron bien coupée, mais sans rien qui sorte de l'ordinaire. Si les perles et l'ivoire n'étaient pas du toc, ce type de flamboyance ne convenait pas à une sœur. Une contradiction qui serait peut-être la clé de bien des choses, si Samitsu réussissait un jour à la comprendre. Les matriarches, surtout Sorilea, la regardaient toujours comme si elle était une idiote. Tout ça parce qu'elle aurait dû tout savoir sans jamais poser de questions. En conséquence, les Aïels ne répondaient pas quand on les interrogeait. Un petit jeu désagréable et permanent, surtout avec Sorilea. Peu habituée à être prise pour une gourde, Samitsu détestait ça. Comme souvent, elle eut du mal à croiser le regard de sa châle, la source majeure de sa frustration, même quand tout allait bien par ailleurs. Pour ne rien arranger, cette sœur rouge avait prêté serment au jeune Altor. Comment une Aes Sedai pouvait-elle jurer fidélité à quoi que ce soit d'autre que la Tour Blanche? Et au nom de la lumière, comment une sœur rouge avait-elle pu se lier à un homme capable de canaliser? Vérine avait-elle eu raison d'avancer que les Taveren influençaient le hasard? Si ce n'était pas une affaire de chance, comment expliquer que 31 sœurs, dont 5 rouges, aient prêté un pareil serment?
Aïlil Riatine a été contactée par des seigneurs et des dames qui représentent presque toutes les forces vives de sa maison,
récapitula Samitsu.
Ils entendent la nommer haute chère, et elle veut avoir l'aval de la Tour Blanche. Des Aes Sedai au moins.
Histoire de cesser de défier du regard l'autre sœur, avec le risque non négligeable de perdre, Samitsu approcha d'une table d'ébène où, sur un plateau d'argent, reposait une carafe en or ouvragé, d'où montait une bonne odeur d'épices. Remplir un gobelet de vin chaud était toujours une bonne excuse pour fuir l'affrontement. Outrée d'avoir besoin d'un tel prétexte, Samitsu reposa la carafe un peu trop vivement. De plus en plus souvent, elle se surprenait à fuir le regard de sa châle, ou à la lorgner en biais, comme en ce moment. À son grand désarroi, elle ne parvint pas à pivoter assez sur elle-même pour regarder la sœur rouge en face.
« Ta châle, réponds à Aïlil par la négative. La dernière fois qu'il a été vu, son frère était toujours vivant, et la rébellion contre le dragon réincarné ne concerne en rien la Tour Blanche, en particulier maintenant que c'est terminé. »
Samitsu revit sa dernière image de Thoram Riatine, s'enfonçant dans un étrange brouillard, capable de se solidifier et de tuer. Une brume qui résistait au pouvoir de l'unique. Ce jour-là, les ténèbres avaient marché hors des murs de Kaerien. Samitsu se concentra pour empêcher sa voix de trembler. Pas de peur, mais de colère. Ce même jour, elle n'avait pas réussi à guérir le jeune Altor. Abominant l'échec, elle détestait encore plus son souvenir, et elle n'aurait pas dû être obligée de se justifier.
Presque toutes les forces vivent, ce n'est pas la totalité. Tous ceux qui restent liés à Thoram s'opposeront à Aelil militairement, s'il le faut. Quoi qu'il en soit, semer le trouble dans les maisons n'est pas un bon moyen de maintenir la paix. Au Kyrienne, l'équilibre est précaire, mais il existe, et nous devons le préserver.
Samitsu s'empêcha d'ajouter que Katsuane serait très mécontente si elle détruisait cet équilibre. Sur sa châle, ça n'aurait aucun impact.
Les troubles éclateront, que nous les fomentions ou pas,
affirma la sœur rouge. Voyant que Samitsu l'écoutait, sa châle se détendit un peu, même si elle continua à pointer agressivement le menton. Peut-être était-ce de l'entêtement plus que de l'hostilité qu'elle exprimait ainsi. Quelle importance, au fond. La sœur rouge ne tentait pas de convaincre son interlocutrice. Elle lui exposait sa position, comme si elle lui faisait une faveur en plus de tout.
Samitsu, le dragon réincarné est le héros des troubles et du changement. Le héros annoncé par les oracles. Et même s'il ne l'était pas, nous sommes aux Kyrienne. Crois-tu que ces gens aient arrêté de jouer au Dice Daimar? Si la surface de l'eau est lisse, le poisson continue à nager.
Une sœur rouge vantant le dragon réincarné comme un vulgaire propagandiste de rue? Par la lumière.
Et si tu te trompes?
Une phrase que Samitsu regretta aussitôt. Que la lumière la brûle. Sa châle n'avait pas bronché.
Aelil a renoncé à toute prétention au trône en faveur d'Elaine Trakand. C'était le souhait du dragon réincarné, et elle est prête à lui jurer fidélité, si je le lui demande. Thoram, lui, commandait une armée contre Randaltor. C'est un progrès, non? Selon moi, il faut courir le risque. Et c'est ce que je dirais à Aelil.
Samitsu fit tintinabuler ses clochettes, inévitable quand elle secouait la tête, et elle se retint de soupirer encore. Parmi les sœurs liées au dragon, 18 étaient toujours présentes à Kyrienne. Katsuane en avait emmené certaines, renvoyant ensuite Alana pour qu'elle en rame d'autres. À part sa châle, sur les 18, plusieurs étaient supérieures à Samitsu. Mais grâce au matriarche, elle ne lui traînait pas dans les jambes. La méthode était indéfendable. Aucune sœur, jamais, n'aurait dû être l'apprentie de quelqu'un. Mais en pratique, elle lui facilitait la tâche. Soumise au matriarche, qui ne les lâchait jamais des yeux, ces Aes Sedai n'étaient pas en mesure de se mêler des événements et encore moins de tenter une prise de pouvoir. Manque de chance, pour une raison toujours mystérieuse, les matriarches se comportaient différemment avec Sachal et les deux autres sœurs calmées au puits de Doumaï. Calmées. À cette idée, Samitsu eut un léger frisson, qu'elle n'éprouverait plus jamais si elle réussissait à découvrir comment Dameur Flynn avait guéri ce qui n'aurait pas dû pouvoir l'être. Enfin, quelqu'un pouvait secourir une femme calmée, tant pis si c'était un homme capable de canaliser. Avec l'habitude, les horreurs d'hier devenaient les désagréments d'aujourd'hui, c'était bien connu. Si elle avait su au sujet de Sachal, Irgain et Ronail, Katsuane aurait à coup sûr réglé les problèmes avec les matriarches avant de partir. Enfin, à coup presque sûr. Déjà impliquée dans un ou l'autre plan de la légendaire sœur verte, Samitsu savait qu'elle pouvait se montrer plus retorse encore qu'une bleue. Des machinations imbriquées dans des complots, eux-mêmes liés à des stratagèmes, le tout dissimulé derrière des rideaux de ruse. Certains plans étaient conçus pour échouer, afin que d'autres puissent réussir. Bien entendu, seuls Katsuane savaient lesquels étaient lesquels. Une idée qui n'avait rien de réconfortant. Quoi qu'il en soit, Sachal, Irgain et Ronail avaient la bride sur le cou. Libre comme l'air, oui, et sans le moindre désir de suivre les consignes de Katsuane ou d'obéir à la sœur qu'elle avait nommée à leur tête. Seul le serment délirant prêté à Altor les guidait et les contraignait. Samitsu ne s'était jamais senti faible et inefficace, sauf quand son don de guérison lui faisait défaut. Pourtant, elle aurait donné cher pour que Katsuane revienne et reprenne les choses en main. Quelques mots soufflés à l'oreille d'Aelil étoufferaient chez elle toute velléité de devenir la haute chair de sa maison. Mais ça ne servirait à rien si Samitsu ne parvenait pas à détourner Sachal de ses objectifs. Même si Aelil redoutait que ses stupides secrets soient dispersés aux quatre vents, ça ne suffisait pas. Toute discordance dans ce que lui diraient les Aes Sedai risquait de la convaincre qu'il valait mieux retourner se cacher dans son domaine plutôt que de risquer dans tous les cas d'offenser une sœur. Katsuane serait perturbée d'avoir perdu Aelil, et Samitsu aussi. La sœur de Thoram était l'agent parfait pour espionner une bonne moitié des intrigues des nobles. Grâce à elle, on pouvait s'assurer que ses complots, restant mineurs, ne provoqueraient pas des troubles graves. Cette maudite Sachal savait tout ça. Si elle donnait son aval à Aelil, ce serait vers la sœur rouge que celle-ci reviendrait avec sa collecte d'informations, pas vers Samitsu Tamagawa. Pendant que Samitsu retournait en esprit ce casse-tête, la porte d'entrée s'ouvrit pour laisser passer une kyrienienne au teint pâle et au visage fermé. Un peu plus petite que les deux Aes Sedai, ses cheveux gris en chignon, elle portait une robe austère gris anthracite, presque noire en réalité, la livrée actuelle des domestiques du palais. Les servantes ne s'annonçaient jamais, bien entendu, et elles ne demandaient pas l'autorisation d'entrer. Cela dit, Corgaid, marraine Devin, n'avait rien d'une domestique ordinaire. Le trousseau de clés d'argent accroché à sa ceinture tenait lieu d'un signe de sa fonction. Quel que soit le dirigeant du Caerien, la maîtresse des clés régnait sur le palais du soleil. En conséquence, rien, chez Corgaid, n'évoquait la soumission. En femme d'expérience, elle esquissa une révérence qui s'adressait à la fois à Samitsu et à sa châle.
« On m'a demandé de rapporter tout ce qui sort de l'ordinaire, »
dit-elle à personne en particulier. Une requête de Samitsu, mais Corgaid avait senti au premier coup d'œil l'animosité entre les deux sœurs. Au palais, presque rien ne lui échappait.
« On vient de m'annoncer qu'il y a un ogier aux cuisines. En compagnie d'un jeune homme, il serait en quête de travail dans la maçonnerie. Un ogier associé à un humain, n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. De plus, quand nous l'avons contacté après les événements, le sanctuaire Tsofu a répondu qu'aucun maçon ogier ne serait disponible dans un avenir immédiat. »
Les événements. La maîtresse des clés n'avait pas bronché en prononçant cet euphémisme. Pourtant, comme tout le monde au palais, elle était au courant des rumeurs qui, à parts égales, accusaient Altor ou les Aes Sedai du désastre. Quand les rejetés étaient mentionnés, on les associait toujours aux dragons réincarnés ou aux sœurs. Samitsu préféra ignorer cet embrouillamini, la grande spécialité des Caerieniens dès qu'ils touchaient à quelque chose. Nier l'implication des Aes Sedai n'aurait servi à rien. Dans une ville où un oui ou un non pouvait donner naissance à six rumeurs contradictoires, les trois serments ne pesaient pas bien lourd. Au palais, les cuisines n'étaient pas ouvertes à tous les vents, mais pour avoir l'occasion d'étudier un ogier, les employés lui auraient sans doute servi un repas chaud, d'autant plus qu'on voyait de moins en moins d'ogiers depuis un an. Quelques-uns se montraient encore, mais en marchant à toute vitesse et sans jamais rester plus d'une nuit quelque part. Voyageant rarement avec des humains, les ogiers travaillaient encore moins avec eux. Pourtant, cet improbable duo éveillait quelque chose dans l'esprit de Samitsu. Avec l'espoir de raviver ses souvenirs, elle ouvrit la bouche pour interroger Corgaid, mais
« Merci, maîtresse des clés, »
dit Sachal en souriant.
« Vos informations sont précieuses. Vous voulez bien nous laisser à présent ?»
Se montrer un peu rude avec Corgaid était une recette infaillible pour n'avoir jamais de drap propre, pour manger fade, pour devoir vider soi-même son pot de chambre et pour ne plus recevoir ses messages. Des petits tracas qui finissaient par pourrir la vie d'une personne, la privant de sa capacité d'agir. Bizarrement, le sourire de sa châle semblait avoir assez adouci ses propos. Sans protester, la maîtresse des clés se fendit d'une deuxième révérence minimaliste, adressée à la seule sœur rouge cette fois. Dès que la porte se fut refermée sur Corgaid, Samitsu posa son gobelet d'argent sur le plateau, si vivement que du vin les éclaboussa, la sœur rouge et elle. Alors qu'elle risquait de ne plus contrôler Aelil, voilà que le palais du soleil tout entier semblait vouloir échapper à son emprise. Corgaid garderait-elle le silence sur ce qu'elle avait vu ici? C'était aussi vraisemblable que de lui voir pousser des ailes et prendre son envol. Se répandant partout, ces racontars influenceraient tous les domestiques, jusqu'au garçon d'écurie qui ramassait le crottin. La dernière révérence de cette femme en disait long sur ce qu'elle pensait. Au fond, qu'importait Caerienne? Entre deux sœurs, la courtoisie était en principe de mise. Mais sa châle, placée guère plus haut que Samitsu dans la hiérarchie, ne la forcerait pas à tenir sa langue face à ce désastre. Au contraire, elle ne comptait pas mâcher ses mots. Alors qu'elle braquait les yeux sur la sœur rouge, Samitsu eut l'impression de la voir pour de bon pour la première fois. Dans un éclair, elle comprit pourquoi ça la troublait tant. Peut-être même était-ce ça qui l'empêchait de regarder sa châle en face. Le visage de la sœur rouge n'était plus épargné par le passage du temps. La plupart des gens ne s'en seraient pas aperçus d'eux-mêmes. Mais pour une autre sœur, c'était clair comme de l'eau de roche. De l'intemporalité, il restait quelques vestiges qui incitaient à trouver sa châle plus belle qu'elle l'était. À part ça, n'importe qui aurait pu lui donner son âge, pas loin de la quarantaine pour être précise. Samitsu fut tétanisée par cette découverte. Sur les femmes calmées, même à la Tour Blanche, on connaissait surtout des rumeurs. Fuyant la compagnie des autres sœurs, elle se cachait et finissait par mourir, très rapidement le plus souvent. La perte du Saïdar pour une Aes Sedai était un drame insupportable. Des oui dire tout ça. À la connaissance de Samitsu, depuis des lustres, personne n'avait eu assez de tripes pour tenter d'en en prendre plus. La terreur inconsciente qui hantait toutes les sœurs, se carboniser par erreur et être frappées de la même impuissance, les dissuadait de chercher à en apprendre plus. Même les Aes Sedai, face au pire, étaient capables de se voiler la face. Cependant, les rumeurs rôdaient, si vagues qu'on oubliait où on les avait entendues pour la première fois, des murmures à la lisière de la conscience, éternellement présents sans l'être. L'un d'entre eux, à demi oublié par Samitsu jusqu'à ce jour, prétendait qu'une femme calmée, si elle survivait, redevenait jeune. Rien de convaincant, en fait. Depuis qu'elle avait recouvré l'aptitude de canaliser, sa châle n'avait pas récupéré tous ses attributs. Comme jadis, il lui faudrait travailler des années avec le pouvoir pour retrouver le visage que toute autre sœur identifierait au premier coup d'œil, si elle le retrouvait. Ça semblait logique, mais comment savoir quand on s'aventurait en terre inconnue? Et si les traits d'une femme calmée se modifiaient, qu'est-ce qui changeait d'autre en elle? Tout peut-être. À cette idée, Samitsu frissonna plus fort qu'à l'évocation du sort terrible de ces femmes. Au fond, elle avait peut-être raison d'explorer sans hâte excessive la méthode de guérison de Dameur. Sans s'apercevoir que sa collègue la dévisageait, l'air torturé, sa châle jouait avec son collier à Yel. Cette affaire est peut-être sans importance, ou peut-être pas. Corgay nous a rapporté des oui-dire. Pour en savoir davantage, il faut aller vérifier. Sans un mot de plus, elle souleva l'ourlet de sa jupe et sortit. Un moment, Samitsu se demanda si elle devait la suivre. Ça semblait humiliant, mais rester en arrière serait encore pire. Bien que sa châle fût à peine plus grande qu'elle, il lui fallut allonger le pas pour la suivre dans les couloirs. Passer devant, impossible, à moins de se mettre à courir. Fumasse, Samitsu se força à serrer les dents. En public, une dispute avec une autre sœur était inconvenante, pour ne pas dire plus, et dans le cas présent, ça ne servirait à rien, sinon à l'enfoncer dans un trou encore plus profond. Que n'aurait-elle donné pour flanquer un grand coup de pied dans quelque chose? Les lampes disposées à intervalles réguliers fournissaient une vive lumière, même dans les couloirs les plus encaissés des corridors. Hélas, on y trouvait très peu d'ornements, à part quelques tapisseries représentant des scènes de chasse ou de chevaleresques batailles. Dans de rares niches, des objets en or ou de la porcelaine du peuple de la mer attiraient le regard, et les corniches, de ci de là, étaient décorées de frises qu'on n'avait souvent pas pris la peine de peindre. Rien de plus à voir. Comme bien d'autres choses, les Kérienniens dissimulaient leur opulence. Les serviteurs et les servantes qui arpentaient les couloirs comme des fourmis portaient tous du gris anthracite, à l'exception des domestiques de nobles invités au palais qui semblaient presque bariolés, avec les armoiries de leur maison brodées sur la poitrine, le col et les manches. Quelques-uns, en veste ou en robe entièrement aux couleurs de leur maison, paraissaient encore plus exotiques. Tous, cependant, gardaient les yeux baissés et prenaient à peine le temps de saluer les deux sœurs. Le palais comptait des centaines de serviteurs, et ce matin, il semblait frappé d'une frénésie d'activité. Quelques nobles flânaient dans les couloirs, saluant eux aussi les Aes Sedai avec circonspection. Des formules de politesse dites à voix basse, histoire de préserver l'équilibre entre une égalité théorique et la véritable position des uns et des autres. En des temps étranges, disait un dicton, on croisait d'étranges compagnons de voyage. Au palais, c'était exactement ça. Les vieilles querelles oubliées face à de nouveaux dangers, provisoirement en tout cas. Deux ou trois seigneurs kérienniens au teint pâle, en tunique de soie à rayures de couleur sur le devant, certains arborant le front rasé et poudré des militaires, déambulaient avec un nombre égal de théariens à la peau sombre, vêtus d'une veste brillante aux larges manches rayées. Plus loin, une théarienne en robe multicolore brodée et coiffe ornée de perles marchait bras dessus bras dessous avec une kérienienne bien plus petite, mais dont l'extravagante coiffure, telle une tour, atteignait une hauteur vertigineuse. Et ces dames, comme des amies intimes, cheminaient en échangeant des confidences. Certains de ces duos étaient plus bizarres que d'autres. Ces derniers temps, pas mal de femmes avaient adopté des tenues excentriques, sans apercevoir, semblait-il, qu'elles attiraient le regard des hommes et forçaient les domestiques à lutter pour garder les yeux baissés. Un pantalon moulant et une veste trop courte pour couvrir les hanches ne faisaient pas une tenue convenable pour une dame, même si on ne lésinait pas sur les broderies et les incrustations de pierres précieuses. Les broches, les colliers et les bracelets, accompagnés de plumes multicolores, soulignaient encore la bizarrerie de ces accoutrements. Même chose pour les bottines de couleur vive dont les talons hauts, de quoi grandir une dame de 5 pouces, donnaient en permanence l'impression que ces coquettes allaient se casser la figure. « Un scandale !» marmonna sa châle, en lorgnant un duo d'impudente. D'agacement, elle entordit le devant de sa jupe. « Un scandale !» ne put s'empêcher de souffler Samitsu. Pour se forcer au silence, elle ferma la bouche si fort que ses dents claquèrent. Elle devait tenir sa langue. Avec sa châle, exprimer son assentiment juste parce qu'elle était d'accord avait tout d'un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Pourtant, elle jeta encore un regard désapprobateur aux deux femmes. Désapprobateur et un rien perplexe. Un an plus tôt, Alain Chuliandred et Fionda Anariz se seraient jetés à la gorge l'une de l'autre, ou plus précisément, auraient envoyé des soldats le faire à leur place. Dans le même ordre d'idées, qui aurait cru voir un jour Bertom Saigan se promener avec Wairamon Sanyago, aucun des deux avec la main sur le manche de sa dague. D'étranges compagnons de voyage, oui. Bien entendu, tous ces gens, éternels adeptes du grand jeu, tentaient de grappiller des avantages, mais les lignes de démarcation, naguère gravées dans le marbre, semblaient être tracées sur l'eau. Des temps étranges, vraiment. Situées au dernier sous-sol du palais, tout au fond, les cuisines, une enfilade de pièces au mur de pierre et au plafond à poutres apparentes, étaient centrées autour d'une longue salle sans fenêtres, remplie de poêles en fonte, de fours en briques et de cheminées en pierre. La chaleur, ici, suffisait à faire oublier la neige qui s'amoncelait dehors, et même l'hiver tant qu'on y était. En principe, les cuisinières, toutes en gris anthracite sous leur tablier blanc, auraient dû s'affairer à préparer le déjeuner, certaines pétrissant le pain sur de longues tables de marbre saupoudrées de farine, tandis que d'autres arroseraient les viandes mises à rôtir dans les cheminées. Pour l'heure, seuls les chiens chargés de faire tourner les broches travaillaient, avides de gagner leur part de rôti ou de volaille. Des paniers entiers de carottes et de navets attendaient d'être pelés et coupés, et de délicieuses odeurs montaient des casseroles de sauce abandonnées. Les marmitons des deux sexes, en sueur ils s'essuyaient discrètement le visage avec leur tablier, se tenaient à la lisière d'un groupe de femmes massées autour d'une table. Depuis l'entrée, Samitsu vit la nuque d'un ogier qui les dépassait de beaucoup, alors qu'elles étaient debout et lui assis. Même si les Kyrieniens se révélaient volontiers plus larges que grands, ça restait impressionnant. Miracle des miracles, quand Samitsu lui posa une main sur le bras, sa châle s'immobilisa sans protester.
« Disparu sans laisser un indice sur sa destination ?»
était en train de demander l'ogier de sa voix de stentor. Ses oreilles poilues, nichées au milieu des cheveux noirs qui lui tombaient jusqu'au col, oscillaient d'avant en arrière, comme s'il était gêné.
« Cessez donc de parler de lui, maître Lédard !»
lança une femme d'une voix chevrotante dont elle semblait maîtriser tous les effets.
« Méchant, voilà ce qu'il était. Avec le pouvoir de l'unique, il a démoli la moitié du palais. En vous regardant, il pouvait vous glacer les sangs, puis vous tuer dans la seconde même. De sa main, des milliers d'innocents ont péri, des dizaines de milliers même. Oh, je déteste parler de lui. »
« Pour quelqu'un qui n'aime pas évoquer un sujet, Eldrid Metin,
dit une autre femme.
« Tu en as long à dire. »
Rablée et plutôt grande pour une kérienienne, presque la taille de Samitsu, des cheveux gris dépassant de sa toque blanche, ce devait être la cuisinière en chef, car toutes les autres femmes acquiescèrent d'abondance, certaines s'écriant.
« Comme vous avez raison, maîtresse Belder !»
Parmi les domestiques, la hiérarchie était aussi strictement établie qu'à la Tour Blanche.
« Maître Lédard, il ne nous revient pas de bavasser sur ce sujet, »
continua maîtresse Belder.
« Des affaires d'Aes Sedai, rien qui concerne les gens comme vous et moi. Si vous nous parliez des terres frontalières, vous avez vraiment vu des Trollocs ?»«
Les Aes Sedai, » marmonna un type. Caché par le cercle de femmes, ce devait être le compagnon de Lédard, car ce matin, il n'y avait aucun homme adulte dans le personnel de cuisine.
« Dites un peu, » insista-t-il. « Vous croyez vraiment qu'elle se liait avec ces types dont vous parliez, les Achaman, pour en faire des champions? Et celui qui est mort, vous n'avez jamais précisé comment ?»«
À l'évidence, c'est le dragon réincarné qui l'a tué !»
osa avancer Eldrid Metin.
« Sauf pour avoir un champion, qu'est-ce qui pousserait une Aes Sedai à se lier avec un homme? Ces Achaman étaient terrifiants. Un regard et ils vous pétrifiaient, littéralement. Il suffisait de les voir pour le savoir, leurs yeux brillants.
« Ferme-la, Eldrid !»
ordonna maîtresse Beldeir.
« Maître Undéril, c'était des Achaman. Ou peut-être pas. Lié ou non, tout ce que je peux vous dire, même chose pour les autres, c'est qu'ils étaient avec lui. »
Inutile de préciser de qui parlait la cuisinière. Si Eldrid avait peur de Randaltor, sa supérieure ne voulait même pas prononcer son nom.
Peu après son départ, les Aes Sedai ont dit au type ce qu'il fallait faire, et ils ont obéi. N'importe quel crétin sait qu'il vaut mieux ne pas contrarier une sœur. À présent, ces hommes sont tous partis. Pourquoi vous intéresse-t-il tant, maître Undéril? Au fait, votre nom est Andorien?
Maître Leda renversa la tête et éclata d'un rire tonitruant, ses oreilles s'agitant spasmodiquement.
« Maîtresse Belder, partout où on passe, il veut tout savoir. Les terres frontalières, avez-vous dit? Vous croyez que les hivers sont rudes chez vous? Là-bas, nous avons vu des arbres s'ouvrir comme des marrons sur le feu à cause du froid. Des blocs de glace dérivent dans les cours d'eau. et certains fleuves, aussi larges que l'Alghenia, peuvent être gelés au point que des caravanes les remontent comme de vulgaires routes. Pour pêcher, il faut faire un trou dans une glace épaisse comme les murs d'un château. La nuit, dans le ciel, des rideaux de lumière crépitent, assez lumineux pour occulter les étoiles.
Captivée, maîtresse Belder, à l'instar des autres femmes, se pencha vers l'augier. Un des marmitons, trop court sur pattes pour voir quoi que ce soit, regarda derrière lui et écarquilla les yeux quand il avisa les deux Aes Sedai. Sidéré, il parvint quand même à tirer sur la manche de maîtresse Belder. La première fois, elle chassa sa main sans y penser. La deuxième, elle tourna la tête et se pétrifia dès qu'elle aperçut les sœurs.
« La grâce soit avec vous, Aes Sedai, »
dit-elle en fourrant sous sa toque des mèches de cheveux grisonnants.
« Que puis-je faire pour vous ?»
Les oreilles dressées, Maître Ledar s'interrompit au milieu d'une phrase, sans tourner la tête cependant.
« Nous voulons parler avec vos visiteurs, »
dit Sachal en avançant.
« N'ayez crainte, nous ne vous dérangerons pas longtemps. Je vous en prie, Aes Sedai. »
Sans doute surprise que des sœurs s'intéressent à ses visiteurs, maîtresse Belder n'en laissa rien paraître. Balayant son personnel du regard, elle tapa dans ses mains, puis donna des ordres.
« Eldrid, ces navets ne se pèleront pas tout seuls. Qui surveillait la source aux figues? Les figues séchées, c'est dur à trouver. Cassie, où est ta louche à arroser? Andil, file chercher !»
Tout le monde s'éparpilla, et un concert de bruit de couverts et de casseroles retentit bientôt, en mode mineur. Car chacun s'efforçait de ne pas déranger les Aes Sedai et de ne pas les regarder, même si la tentation restait grande. Maître Ledar se leva, sa tête tutoyant les poutres du plafond. Sa tenue, constata Samitsu, correspondait à ce que portaient les augiers qu'elle avait rencontrés, une redingote sombre et des bottes à revers. Les taches sur le tissu indiquaient qu'il avait voyagé dans de rudes conditions, car les augiers étaient un peuple soigneux. Se tournant à demi, il s'inclina poliment, puis se gratta le nez, dissimulant en partie son large visage. Pour un augier, il paraissait assez jeune.
« Excusez-nous, Aes Sedai, » dit-il, « mais nous devons vraiment y aller. »
Se penchant pour saisir une grande sacoche de cuir et la couverture qui était attachée, il la suspendit à son épaule. Comme la sacoche, les poches de sa redingote semblaient contenir des objets rectangulaires très épais.
« Avant l'obscurité, il nous reste du chemin à faire. »
Les mains posées sur la table, le compagnon de l'augier resta assis. Les cheveux clairs, ce jeune homme à la barbe d'une bonne semaine, semblait avoir dormi plusieurs nuits dans ses vêtements froissés. Avec des yeux sombres rappelant ceux d'un renard acculé, il regardait les Aes Sedai sans une once d'aménité.
« Où allez-vous donc, pour pouvoir y être à la nuit tombée ?»
demanda Sachal. Elle s'immobilisa en face du jeune augier, assez près pour être obligée de lever la tête afin de le regarder. Une contorsion qu'elle réalisa avec une grâce surprenante.
« Seriez-vous en route pour la réunion dont nous avons entendu parler, au sanctuaire Shangtai ?»« Maître Ledar, c'est ça ?»
Les oreilles frémissantes, l'augier roula d'énormes yeux presque aussi méfiants que ceux de son compagnon.
« Ledar, fils de Shandin, fils de Koimal, Aes Sedai, »
se présenta-t-il à contre-cœur.
« Je ne vais sûrement pas à la grande souche. Les anciens ne me laisseraient pas approcher assez pour entendre ce qui se dira. »
Il eut un ricanement à l'évidence forcé.
« Ce soir, nous n'arriverons pas à destination, Aes Sedai, mais chaque lieu avalé n'est plus à parcourir. Il faut que nous partions. »
Le jeune homme hâve et mal peigné se leva, une main sur la poignée de l'épée qui battait son flanc. Pourtant, il ne fit pas mine de ramasser son paquetage lorsque l'augier se dirigea vers la porte d'entrée et ne broncha pas davantage quand il lança par-dessus son épaule
« Il est temps d'y aller, Kaldin. »
Allongeant le pas pour le rattraper, Sachal vint barrer le chemin à l'augier.
« Vous cherchez de l'ouvrage dans le bâtiment, Maître Ledar ? C'est bizarre, parce que vos mains ne sont pas calleuses, comme celles de tous les maçons que j'ai vus. Entre nous, vous auriez tout intérêt à ne pas éluder mes questions. »
Tenté d'afficher un sourire triomphant, Samitsu vint se camper à côté de la sœur rouge. Cette femme croyait pouvoir la tenir à l'écart et prendre les choses en main. Eh bien, elle allait déchanter.
« Vous devriez vraiment rester un peu, »
dit-elle à l'augier, à voix basse. Avec le bruit ambiant, personne n'aurait pu entendre, mais on n'était jamais trop prudente.
Avant d'arriver au Palais du Soleil, j'avais entendu parler d'un jeune augier ami de Randaltor. Il y a quelques mois, il aurait quitté Kaerien en compagnie d'un certain Kaldin. Je me trompe, Loyal ?
Les oreilles en berne, l'augier baissa la tête. Son compagnon, lui, marmonna un juron des plus déplacés en présence de deux Aes Sedai.
« Je m'en vais quand ça me chante, Aes Sedai, »
souffla-t-il sans aménité. Pour l'essentiel, il regardait Samitsu et sa châle, mais sans perdre tout à fait de vue les employés de la cuisine, au cas où ils auraient fait mine d'approcher. À l'évidence, ils n'avaient aucune envie d'être entendus.
« Mais avant, continua-t-il, je veux des réponses. Qu'est-il arrivé à mes amis ?
Et à lui ? A-t-il perdu la raison ?»
Samitsu s'avisa soudain qu'elle aurait dû s'y prendre autrement. Ce n'étaient pas les yeux d'un renard acculé, mais d'un loup. Hélas, elle s'était trop habituée à Damer, Jahar et Eben, trois hommes apaisés rendus encore plus inoffensifs par le lien. Même si ça pouvait sembler exagéré, il était juste de dire que les horreurs d'hier, après une exposition assez prolongée, devenaient les motifs d'autosatisfaction d'aujourd'hui. L'exemple de Mérise avec Jahar en était la parfaite illustration. Carl Dean Manford était lui aussi un achaman, ni lié, ni apaisé. En cet instant, s'était-il connecté à la moitié masculine du pouvoir ? Quelle question idiote ! Autant se demander si les oiseaux volaient. Le front plissé, les mains posées sur le devant de sa jupe bien trop inerte, sa châle dévisageait le jeune homme. Non sans soulagement, Samitsu vit qu'elle ne s'était pas unie à la source. Quand une femme puisait du saïdar, les achamans le sentaient, et ça donnait parfois des résultats tumultueux. Même si Sacha et elle devaient pouvoir neutraliser le jeune homme, ça n'était pas une absolue certitude. Bien sûr que si, voyons. La question ne se posait même pas. Cela dit, ne pas essayer serait préférable. Sacha, ne manifestant aucune envie de prendre les choses en main, pour une fois, Samitsu posa délicatement les doigts sur l'avant-bras de la chamane. À travers la manche de sa veste, elle eut l'impression de sentir une barre de fer. Ainsi, il était aussi tendu qu'elle. Lumière. Fréquenter Damer et les autres avait miné tous ses instincts.
La dernière fois que je l'ai vu, il n'avait pas l'air plus fou que la moyenne des hommes.
Mieux valait rester allusive. Si les cuisinières et les marmitons n'osaient pas approcher, ils jetaient de fréquents coups d'œil aux quatre intrus. Samitsu nota que Loyal soupirait de soulagement, le bruit du vent qui s'engouffre dans une grotte au minimum. Mais elle resta concentrée sur Carl Dean.
J'ignore où il est, mais il était toujours vivant il y a peu.
À part ça, Alana était restée muette comme une carpe. Le message de Katsuane dans une main, elle s'était montrée inflexible.
Fedwin mort a succombé au poison, j'en ai peur. Cela dit, j'ignore qui le lui a administré.
À la grande surprise de Samitsu, Carl Dean hocha la tête, eut une moue amère et marmonna quelques mots incompréhensibles au sujet du vin.
Les autres sont devenus des champions de leur plein gré.
Pour autant qu'un homme pouvait agir de son propre gré. Roshan, le champion de Samitsu, n'avait eu aucune intention de s'engager dans un lien, jusqu'à ce qu'elle décide de l'y entraîner. Même les femmes ordinaires pouvaient influencer les hommes, c'était dire.
Ils ont estimé que c'était le bon choix, plus sûr en tout cas que de retourner vers les gens comme toi. Les dégâts ici sont l'œuvre du Saïdin. Vous commencez à comprendre qui tirait les ficelles ? L'idée était de tuer celui dont la santé mentale vous préoccupe tant.
Carl Dean ne parut pas surpris. De quel bois étaient donc faits ces achamans ? Leur tour noir, comme il disait, était-elle un repère d'assassin ? Son bras se détendant, Carl Dean redevint soudain un jeune homme épuisé par la route et qui aurait eu bien besoin de se raser.
« Par la lumière, » murmura-t-il. « Que faisons-nous, Loyal ? Où devons-nous aller ?»«
Je n'en sais rien, » répondit l'ogier, les oreilles toujours en berne. « Il faut le trouver, Carl Dean, d'une manière ou d'une autre. Pas question de renoncer. » Il doit savoir que nous avons fait ce qu'il demandait, dans la mesure du possible.
Et qu'avait donc demandé Altor ? S'interrogea Samitsu. Avec un peu de chance, elle tirait un trésor d'informations de ces deux-là. Seul et se sentant perdu, un homme ou un ogier avait tendance à s'épancher. La main refermée sur la poignée de son épée, Carl Dean sursauta. Voyant une servante débouler dans la pièce, ses jupes relevées presque jusqu'aux genoux, Samitsu dut elle-même ravaler un juron.
« Le seigneur Dobrain a été assassiné !»
cria la domestique.
« On va tous nous égorger dans notre sommeil. De mes yeux, j'ai vu un mort-vivant, le vieux Maringil en personne. Et ma mère dit que les spectres, si un meurtre est commis, tueront tout le monde. Il... »
La femme se tut quand elle vit les deux Aes Sedai. S'arrêtant net, elle ne lâcha pas ses jupes pour autant. Dans la pièce, tous les regards se braquaient sur les sœurs, dans l'attente de leur réaction.
« Pas Dobrain, »
gémit Loyal.
« Non. » Pas lui.
Visage fermé, il semblait triste et furieux. La première fois que Samitsu voyait un ogier en colère.
Quel est ton nom ?
Demanda Sachal à la domestique. Prise de vitesse, Samitsu n'avait même pas eu le temps d'ouvrir la bouche.
Comment sais-tu que c'est un meurtre ? Es-tu sûr qu'il soit mort ?
Sous le regard de la sœur rouge, la domestique se ratatina.
Je me nomme Sera Aes Sedai.
La femme voulut se fendre d'une révérence. Constatant qu'elle relevait toujours sa jupe, elle la lâcha et parut encore plus troublée qu'avant.
« Serra, Toinal !»
précisa-t-elle.
« On dit, tout le monde dit qu'il est mort, car enfin il était, je veux dire, dans ses appartements, il y a du sang partout, et il gisait dans une mare rouge, sans sa tête, à ce qu'on raconte. »
« Les gens disent beaucoup de choses, » lâcha sa châle, « et ils ont presque toujours tort.
Samitsu, tu viens avec moi. Si le seigneur Dobrain est blessé, tu l'aideras. Loyal et Kaldin, vous m'accompagnerez aussi. Pas question de vous laisser filer sans un petit interrogatoire. »
« Que la lumière brûle ton interrogatoire !»
s'écria Kaldin en saisissant son paquetage.
« Moi, je m'en vais !»«
Non, mon ami, » dit Loyal.
Il posa un énorme battoir sur l'épaule du jeune homme.
« Impossible de partir avant de savoir pour Dobrain. C'est un ami. » De Rand, mais aussi de moi. On reste. Au fond, personne ne nous attend.
Samitsu plissa les yeux et inspira à fond. Ça ne la soulagea pas. Une fois de plus, elle se retrouva à la traîne de sa châle. La sœur rouge avançant plus vite que jamais, elle dut presque courir pour la rattraper puis ne pas être distancée. Dès que les quatre intrus furent sortis, des voix retentirent dans tous les coins de la cuisine. La pauvre servante devait crouler sous les questions, auxquelles elle finirait par inventer les réponses pour avoir la paix. 10 versions au moins de l'affaire sortiraient des cuisines, chacune alimentant les rumeurs que Corgaid devait sans doute déjà répandre. Dans sa vie, Samitsu doutait d'avoir connu une journée si catastrophique. Tout lui glissait entre les doigts. Pour se venger, Katsuane se ferait une paire de gants avec la peau de son dos. Loyal et Kaldin avaient suivi le mouvement. Ce que Samitsu apprendrait grâce à eux lui conférerait un grand avantage. Plus de sécurité et la chance de sauver elle ne savait pas encore quoi. Du coin de l'œil, elle étudia l'ogier et son compagnon humain. Marchant à tout petit pas, Loyal faisait de son mieux pour ne pas dépasser les Aes Sedai. L'air sinistre, il devait penser à Dobrain et au relatif échec de sa mission pour Rand. Une énigme que Samitsu avait la ferme intention de résoudre. L'air buté, le jeune Achaman serrait toujours la poignée de son épée, mais le danger chez lui, ce n'était pas l'acier. Les yeux rivés sur la nuque des deux sœurs, il croisa à un moment ceux de Samitsu quand elle se retourna et la foudroya du regard, sans dire un mot cependant. Lui délier la langue ne serait pas facile, mais il faudrait y arriver. Sa châle ne se retourna pas une fois, mais pour être sûr que le duo suivait, il suffisait d'entendre les bottes de l'ogier marteler les dalles du sol. Surprise par l'air pensif de la sœur rouge, Samitsu aurait donné cher pour savoir ce qui la tracassait. Bien sûr, elle avait juré allégeance à Altor, mais en quoi cela la protégeait d'un achaman? Quoi qu'il soit arrivé à son visage, elle restait une sœur rouge. Du coup, la situation était encore plus explosive. Des cuisines aux appartements du seigneur Dobrain, situés dans la tour de la pleine lune, en général réservée aux visiteurs de marque, il y avait un long chemin. Si long, en fait, que les soupçons de Samitsu se confirmèrent. De très loin, Serra n'avait pas été la première à entendre les nouvelles concernant Dobrain. Bien au contraire, une multitude de serviteurs allaient et venaient dans les couloirs, en murmurant entre eux par petits groupes. Dès qu'ils voyaient les Aes Sedai, ils se taisaient, puis s'éparpillaient. Quelques-uns restèrent figés sur place, stupéfiés par la présence d'un ogier au palais, mais c'était l'exception qui confirmait la règle. Plus de nobles en vue. Bien à l'abri dans leurs appartements, ils devaient déjà peser les risques que leur faisait courir le sort funeste de Dobrain et les avantages qu'ils tiraient de sa disparition. Quoi qu'en pensât sa châle, Samitsu ne doutait plus du décès de Dobrain. S'il avait été toujours vivant, ses serviteurs auraient déjà démenti la fausse nouvelle. S'il avait fallu une confirmation, la foule de domestiques qui se pressait dans le couloir du défunt seigneur l'aurait apportée. Arborant la tenue bleue et blanc de la maison Taborwin, les manches retroussées jusqu'au coude, tous pleuraient ou avaient l'air perdus, comme si on menaçait de leur retirer le sol qu'ils foulaient. D'un seul mot, sa châle les força à s'écarter, d'une démarche d'ivrogne ou d'automate, remarqua Samitsu. Hébété, ces malheureux ne réagirent même pas à la présence d'un ogier. Quant à saluer les Aes Sedai, la plupart n'y songèrent pas une seconde. À l'intérieur, l'antichambre aussi débordait de serviteurs du seigneur, tous en état de choc. Au milieu de la vaste pièce, Dobrain gisait sur une civière, la tête encore sur les épaules, mais les yeux fermés et le visage couvert de sang. Sur son crâne, une plaie suintait encore. 2 domestiques en pleurs qui voulaient poser un carré de tissu blanc sur la tête de leur maître s'interrompirent en voyant les Aes Sedai. Dobrain ne respirait plus. Il avait du sang au coin de la bouche et sa longue veste rayée portait plusieurs entailles de lames. Près de la civière, du sang noir maculait le motif vert et jaune en labyrinthe du tapis terrien à franges. Personne ne survivait à une telle perte de sang. Deux autres corps gisaient sur le sol, l'un sur le dos, ses yeux vides fixant le plafond, et l'autre couché sur le côté, le manche d'un couteau d'argent dépassant de ses côtes, là où la lame avait dû transpercer le cœur. Deux petits kyrieniens au teint pâle en livrée de serviteurs du palais, mais les dagues qui gisaient près d'eux identifiaient à coup sûr des imposteurs. Un domestique de la maison Taborwin, prêt à décocher un coup de pied à un des tueurs, hésita à la vue des Aes Sedai, puis finit par céder à sa pulsion vengeresse. Pour l'heure, ici, tout le monde se fichait des convenances.
« Ne lui couvrez pas le visage !»
ordonna Sachal aux deux serviteurs.
« Samitsu, vois si tu peux encore aider le seigneur Dobrain. »
Samitsu se précipitait déjà, mais cet ordre, car c'en était un, manqua lui faire rater une enjambée. Les dents serrées, elle avança, s'agenouilla près de la civière, pas du côté taché, et posa les mains sur la tête ensanglantée du seigneur. Avoir du fluide vital sur les mains ne l'avait jamais gêné. En revanche, sur la soie, les taches ne partaient jamais, sauf si on recourait au pouvoir, et elle répugnait à l'utiliser pour de telles futilités. Maîtrisant d'instinct les tissages requis, elle s'unit à la source, puis sonda le corps du Kairienien, sans l'ombre d'une hésitation, mais pas sans surprise. Bien que certaine d'avoir affaire à trois cadavres, elle avait quand même obéi à sa châle. Une saine initiative, puisqu'il restait une étincelle de vie en Dobrain. Si fragile que le choc de la guérison risquerait de la souffler. Le choc lié à sa méthode de guérison, plus exactement. Du regard, Samitsu chercha le jeune achaman. Agenouillé près d'un des faux serviteurs, il le fouillait, impassible sous le regard choqué des vrais domestiques. Remarquant enfin Loyal, immobile dans l'encadrement de la porte, une servante en eut le souffle coupé. Les bras croisés et le visage fermé, l'augier ressemblait à une sentinelle venue de nulle part.
« Kaldin, que savez-vous du type de guérison inventé par Dahmer Flynn ?»
demanda Samitsu.
« La variante qui recourt aux cinq pouvoirs. »
Le front plissé, la chamane regarda la Aes Sedai.
« Flynn ? J'ignore de quoi vous parlez, et je n'ai aucun don pour la guérison. »
Baissant les yeux sur Dobrain, il ajouta.
Selon moi, il est mort, et j'espère que vous pourrez le sauver. Il était au puits de Dumaï.
Samitsu se passa la langue sur les lèvres. Dans des circonstances où tous les choix possibles étaient mauvais, être emplie de Saïdar lui procurait beaucoup moins de plaisir. Avec précaution, elle généra des flux d'air, d'esprit et d'eau, et les tissa délicatement. Le protocole de guérison standard, connu de toutes les sœurs. De mémoire d'Aes Sedai vivante, personne n'avait jamais eu un don comme le sien. La plupart des sœurs, leur marge de manœuvre limitée, ne pouvaient pas guérir grand-chose à part des contusions. Seule, elle était aussi efficace qu'un cercle d'Aes Sedai lié. Alors que les autres sœurs étaient incapables de réguler le tissage, presque toutes n'essayaient même pas d'apprendre, elle y était parvenue dès le départ. Cela dit, contrairement à Dahmer, elle ne savait pas guérir un dommage particulier et laisser le reste en l'état. Son intervention agirait sur l'ensemble des dégâts, des blessures par lame jusqu'aux narines bouchées par le sang caillé. La sonde qu'elle venait de lancer avait repéré toutes les lésions dont souffrait Dobrain. Restait à choisir la puissance de son intervention. À son maximum, Samitsu pouvait éliminer les pires blessures, comme si elles n'avaient jamais existé. À son minimum, on aurait juré que le patient avait mis des jours et des jours à se rétablir tout seul. Et bien sûr, entre les deux, on trouvait toutes les nuances possibles. Quoi qu'elle choisisse, le processus serait épuisant pour elle, mais Dobrain ne serait pas affecté de la même manière. Moins elle altérerait son corps, et moins elle le priverait de ses forces. Mais à part celle au cuir chevelu, toutes ses blessures étaient graves. Les poumons perforés en quatre endroits, deux autres plaies au cœur. Dans ces conditions, la guérison la plus puissante le tuerait avant que ses lésions se soient refermées. En revanche, la moins forte le ramènerait à la vie juste assez longtemps pour qu'il se noie avec son propre sang. Il allait falloir oser et implorer la lumière pour ne pas se tromper.
« Je suis la meilleure de l'histoire !»
Un compliment venu de Katsuane.
Oui, la meilleure.
Après avoir modifié légèrement son tissage, Samitsu le laissa se déverser dans le corps du seigneur. Voyant leur maître pris de spasmes, quelques domestiques crièrent d'angoisse. Les yeux rouverts, Dobrain s'assit à demi, juste le temps qu'un râle d'agonie, en tout cas on l'aurait juré, s'échappe de ses lèvres. Puis ses yeux se révulsèrent et il retomba sur la civière. Samitsu modifia encore son tissage et sonda de nouveau son patient. Sa vie ne tenant qu'à un fil, il n'était pas sorti d'affaire, mais ses blessures ne le tueraient pas, enfin, pas directement. Sous le sang séché qui empoissait ses cheveux, on voyait la ligne rose en relief d'une entaille toute fraîche. Sur son torse, le spectacle devait être le même. Réveillé, Dobrain aurait sans doute des problèmes respiratoires, en particulier à l'effort. Mais il vivait, et pour le moment, rien d'autre ne comptait. À part savoir qui avait voulu sa mort et pourquoi. Cessant de puiser dans la source, Samitsu se releva sur des jambes mal assurées. Transférer tant de Saïdar chez un patient l'épuisait toujours. Les yeux ronds, le domestique qui voulait recouvrir le visage de son maître lui tendit le carré de tissu pour qu'elle s'essuie les mains.
« Portez-le dans son lit, »
dit-elle.
« Puis faites-lui boire autant d'eau additionnée de miel qu'il pourra en avaler. Il faut qu'il reprenne vite des forces. Enfin, trouvez une guérisseuse. Une herboriste, par exemple. Oui, une herboriste. Ça ne sera pas de trop. »
Samitsu avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Des herbes aideraient, sans doute. Quoi qu'il en soit, utilisées par une herboriste compétente, elles ne feraient pas de mal. Et la guérisseuse ferait en sorte qu'on donne au patient le bon volume d'eau au miel. Après une série de courbettes et de remerciements, quatre serviteurs soulevèrent la civière et sortirent de l'antichambre. L'air soulagé, la plupart des domestiques les suivirent, mais d'autres filèrent dans le couloir. Presque aussitôt, des cris de joie retentirent, et Samitsu nota qu'on criait son nom en même temps que celui du seigneur. Du beau moqueur, ça. De quoi se rengorger, si Sachal n'avait pas cru bon de gratifier sa collègue d'un sourire approbateur. Approbateur? Et quoi encore? Et pourquoi ne pas lui tapoter le crâne tant qu'elle y était? À la connaissance de Samitsu, Carl Dean ne s'était pas intéressé le moins du monde à la guérison. La fouille du second cadavre terminée, il se redressa, alla rejoindre Loyal, et s'ingénia à lui montrer quelque chose, sans que les Aes Sedai voient de quoi il s'agissait. L'augier lui prit des mains une feuille et la leva au-dessus de ses yeux.
« Ça n'a aucun sens, » marmonna-t-il en lisant. « Aucun sens du tout, sauf si... »
Loyal s'interrompit et échangea un regard avec son compagnon, qui hocha la tête.
« C'est dramatique, »
se lamenta l'augier.
« S'ils étaient plus que deux, et s'ils ont trouvé... »
Voyant Carl Dean secouer la tête, l'augier s'interrompit de nouveau.
« Je peux voir ça ?»
demanda Sachal, main tendue. Une question qui tenait plus d'un ordre. Carl Dean tenta de récupérer la feuille, mais Loyal la confia à Sachal. Après l'avoir lue sans broncher, la sœur rouge la transmit à Samitsu. Cette variante de parchemin, lisse et luxueuse, ne ressemblait pas à du parchemin, justement. Une nouvelle invention ? En lisant, Samitsu dut interdire à ses sourcils de se froncer.
« Sur mon ordre, les porteurs de cette note sont chargés de récupérer dans mes appartements certains objets dont ils connaissent la liste et de les emporter hors du palais du soleil. Qu'on les laisse seuls entre mes murs, qu'on leur fournisse toute l'assistance dont ils auront besoin et qu'on ne dise pas un mot de cette affaire, au nom du dragon réincarné et sous peine de lui déplaire grandement. Dobrain Taborwin. »
Pour avoir souvent vu l'écriture du Seigneur, Samitsu l'a reconnue du premier coup d'œil.
« On dirait que quelqu'un a loué les services d'un très bon faussaire, »
dit-elle, une remarque qui lui valut un regard méprisant de Sachal.
« On appelle ça enfoncer les portes ouvertes, Samitsu. Qui pourrait croire qu'il a écrit ces mots, puis que ses propres hommes l'ont poignardé par erreur ? Loyal, Carl Dean, que risque-t-il d'avoir trouvé cette heure ? Qu'est-ce qui vous effraie tant ?»
Visage de marbre, Carl Dean soutint le regard de l'Aes Sedai.
« Je ne visais rien de particulier, »
répondit Loyal.
Ils étaient là pour voler quelque chose, et c'est inquiétant en soi. »
Frémissant si fort qu'elles en vibraient presque, ses oreilles poilues le trahirent. Surtout dans leur jeunesse, les augiers étaient de piètres menteurs. Sachal secoua la tête, faisant onduler ses bouclettes.
« Vous détenez des informations cruciales. Ne comptez pas partir avant de me les avoir transmises. »« Et vous comptez nous retenir comment ?»
demanda Carl Dean, d'un ton calme qui rendait ses propos plus menaçants. Comme si rien ne le tracassait, il soutint sereinement le regard de Sachal. Un loup, oui. Rien à voir avec un renard. Brisant ce moment de tension silencieuse, Rosara Medrano déboula dans la pièce.
« J'ai cru ne jamais vous trouver !»
lança-t-elle aux deux autres Aes Sedai. Encore munie de ses gants rouges et de son manteau doublé de fourrure, la théarienne abaissa sa capuche pour révéler les peignes d'ivoire sculptées qui tenaient ses cheveux noirs. Sur ses épaules, la neige fondue avait laissé des taches d'humidité. Grande, le teint hâlé comme celui d'une aïeule, elle était sortie à l'aube en quête d'épices indispensables à la préparation du plat national de son pays, un ragoût de poisson. Après un coup d'œil rapide à Loyal et à Carl Dean, elle ne prit pas la peine de demander des nouvelles de Dobrain.
« Samitsu, des sœurs viennent d'entrer en ville. J'ai chevauché ventre à terre pour les devancer, mais elles ne tarderont pas à arriver ici. Des achamans les accompagnent, et Loghain est parmi eux. »
Carl Dean eut un rire rauque. Samitsu, elle, se demanda si elle vivrait assez longtemps pour que Katsuane l'écorche vive.